Bonjour à toutes et à tous. J'ai rendez-vous cette semaine avec Lior Ziv, citoyen israélien d'origine belge, qui me fait le plaisir de me rendre visite pour cette interview ici dans le quartier de Rehavia de Jérusalem, où il habite également. Lior, bonjour.
Bonjour.
Alors, nous vivons à Jérusalem et en Israël en général des temps difficiles. Et j'aimerais savoir comment toi, tu abordes ta journée en tenant compte ou pas des risques qui pèsent sur Jérusalem. Et je sais par exemple que tu te rends tous les jours maintenant à l'université hébraïque, le campus de Har HaTzofim, qui se trouve assez à l'est de Jérusalem. Alors comment ça se passe ?
Bon, moi j'aborde la journée pas différemment que l'année passée ou il y a 2 ans. Je n'ai pas changé ma routine. C'est vrai qu'on a un peu des soucis ou des préoccupations. On pense, si je vais parfois en vélo jusqu'à là, et je pense peut-être je vais aller sur le trottoir au lieu de la rue, parce que sur la rue c'est plus facile qu'une voiture pourrait rentrer dedans, tandis que sur le trottoir on est un peu plus safe, si tu veux. Mais je considère ça juste des précautions générales que peut-être je prendrais aussi dans les autres villes dans le monde ou en Europe. Donc, au journalier, au quotidien, je ne change pas ma routine. Personnellement, j'ai pas peur. On voit des gens parfois autour de nous qui ont un peu peur. Mais à court terme ou le jour, surtout moi, à niveau personnel, il n'y a aucun souci. Oui, il y a un souci. Plutôt, quand on voit ce qui se passe, ça fait penser à long terme. Ça donne des soucis. Quel est le futur de l'État d'Israël, du peuple juif dans le Moyen-Orient? Ça donne des soucis.
Et quand tu es sur le campus, quand tu es à l'université, quand tu fréquentes tes cours, comment est l'ambiance actuellement?
L'ambiance n'a pas changé, en fait. On ne remarque pas de différence. Aussi, ça c'était depuis, je ne sais pas si toujours, mais depuis que j'y suis, il y a aussi beaucoup d'étudiants arabes à Har HaTzofim, donc au Mont Scopus. Et ils sont là et en fait, ça vit au même temps, où ils étudient au même temps que les étudiants juifs et internationaux là, mais il n'y a pas vraiment un contact proche entre les groupes là. Parfois, on voit des gens qui parlent l'un avec l'autre, même c'est cette semaine-ci, parce que l'université n'a que commencé cette semaine. On voit aussi dans ces temps-ci, des gens se parlent comme avant, mais c'est assez limité.
Toi, tu suis une filière plus d'études juives. Donc tu es peut-être moins amené à rencontrer dans tes cours ou dans les salles de cours, dans les amphithéâtres peut-être. Tu es donc moins amené à fréquenter ou être avec des étudiants arabes, mais peut-être que dans d'autres classes, tu me diras si je me trompe, mais peut-être que dans d'autres classes, dans d'autres cours, il y a un certain mélange et c'est intéressant un peu de voir comment ça se passe.
Oui, en fait, j'ai fait introduction à l'islam l'année passée et il y avait aussi des étudiants arabes, enfin, surtout au début de l'année quand ils venaient encore au cours. Plus tard dans l'année, on ne les voyait plus. Et c'était intéressant parce qu'ils discutaient, le prof était aussi juif, d'origine slovaque. Et il discutait avec lui et avec les autres étudiants, parfois sur le contenu de ses cours. Mais c'est vrai que je n'ai pas trop de contact au quotidien avec les étudiants arabes, mais je ne crois pas que c'est à cause de mes études ou... Je crois que c'est presque tous les étudiants que c'est le cas, à part peut-être les étudiants qui font des études arabes, mais même là, j'en connais certains. Les étudiants qui font des études arabes, les juifs sont surtout avec les juifs et les arabes surtout avec les arabes. Donc,
ouais, donc il n'y a pas beaucoup de mélange.
Pas beaucoup. Moi, personnellement, c'est dommage. En fait, l'année passée, quand j'ai commencé à apprendre l'arabe, j'avais mis une annonce que je cherchais pour quelqu'un avec qui je peux pratiquer l'arabe. Je venais de commencer à l'étudier, j'avais mis l'anglais ou le français, on peut faire échange de langues comme ça, se rencontrer. Ce qui était intéressant, il y en a pas mal d'étudiants arabes qui m'ont contacté, tout le monde voulait le français, pas l'anglais. Et puis je me suis assis avec deux d'entre eux. Et c'était très agréable aussi de mieux les connaître. Donc c'est un peu dommage, je crois. que le blocage est surtout de leur côté. Donc, je crois que beaucoup d'étudiants juifs seraient très ouverts à plus parler avec les étudiants arabes, mais de l'autre côté, c'est possible que je me trompe, mais de ce que j'ai compris, c'est perçu un peu comme une trahison, peut-être, d'être trop sympa avec des juifs ou des étudiants juifs.
Donc ça reste en groupe, quoi.
En gros, oui.
Alors, pour les auditeurs qui ne connaissent pas bien Jérusalem, c'est vraiment une ville de quartier. Donc il y a
Oui.
plein de quartiers. Souvent dans les infos, on entend un attentat dans ce quartier, dans un autre quartier. Nous vivons, autant toi que moi, nous vivons dans un quartier assez calme qui s'appelle Rehavia.
En fait, c'est Kiryat Shmuel qu'on habitait pas Rehavia, mais c'est à côté de Rehavia,
Bon, ok,
oui.
c'est un détail, c'est vrai. Mais par le passé, dans les autres vagues de violence, et notamment la première, donc la deuxième intifada, c'est quand même un quartier qui a été pris sous les feux des attentats. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Où est-ce que je me
Je
trompe?
sais pas si. Bon, ni toi ni moi, je crois, on était ici pendant la première et deuxième intifada. Je crois pas que Rehavia ou Kiryat Shmuel ou Katamon étaient tellement touchés. Plutôt, c'était les bus. Si les bus, peut-être, qui provenaient d'ici, ce que je connais plus, c'est en centre-ville, les bus qui ont explosé. Et peut-être qui provenaient de plusieurs quartiers. Enfin, un bus, il passe par beaucoup de quartiers aussi en chemin vers là où il va. Je ne sais pas quel était le cas ici, je crois que c'était aussi plus calme, et à l'instant aussi c'est calme ici. Et je dirais même plus, je dis, ce n'est pas seulement calme ici, je crois dans la plupart des quartiers de Jérusalem, c'est la plupart du temps très calme. Quand il y a quelque chose qui se passe, c'est un incident instantané. Par exemple, je peux donner deux exemples, il y avait un attentat la semaine passée dans la gare centrale. Et mon frère, il revenait juste des lattes, et 1 ou 2 heures après, il était à la gare
La
centrale.
station de bus?
Oui, la station de bus. Et il a dit, s'il n'aurait pas entendu sur les nouvelles qu'il y a eu un attentat, il n'aurait rien remarqué. Donc même un endroit où il y a eu un attentat, avant et après, on ne remarque pas forcément quelque chose. C'est des choses qui se passent et qui sont très instantanées. Et ça aussi, dans un certain sens, c'est la terreur, parce que ça vient de nulle part, soudainement. Tout est normal et puis ça vient de nulle part.
Mais
Donc je...
tout le monde se sent visé. C'est-à-dire que on pense parfois que c'est un attentat qui va toucher les autres, mais et ça touche les autres, malheureusement. Mais ça a l'effet de nous faire penser que nous aussi on peut être victime, et c'est ça un peu le but de
Oui,
la terreur, en fait.
je crois.
Tu as des amis, donc tu as évoqué donc cette station de bus, mais tu as des amis ou des proches ou peut-être des membres de ta famille, je ne sais pas, qui vivent dans d'autres quartiers à Jérusalem ou ailleurs en Israël et qui se sentent un peu menacés.
Quelqu'un qui est proche de moi, non. Enfin, de ce que moi je vois, ils ne sont pas vraiment menacés. Il y a des gens aussi dans notre quartier qui se sentent très menacés. Je crois que la menace se joue surtout dans la tête des gens. Ce qui ne veut pas dire évidemment qu'il n'y a rien qui se passe en réalité. On entend une ambulance aussi qui passe. Et la semaine passée, on entendait plusieurs fois beaucoup d'ambulances qui passent, et puis on écoute sur les nouvelles et on entend qu'il y a eu en fait un attentat juste auparavant. Donc évidemment qu'il y a des choses qui se passent, mais je crois que la peur que des gens ont, c'est surtout dans leur tête, et deux personnes qui sont dans une situation très très similaire peuvent réagir très différemment.
Donc toi, tu as plus pris le parti de vivre ta vie quotidienne sans trop modifier tes habitudes ou même pas du tout, mais tu connais des gens qui changent leurs habitudes?
Oui. Il y a des gens qui se promènent avec des moyens de autodéfense comme du pepper spray ou des matraques. Et j'en connais personnellement aussi qui ont été achetés. Donc.
Ouais, on voit beaucoup de publicités sur Internet en ce moment en Israël et ailleurs même des affiches, j'ai vu, pour vendre ces armes
Oui,
d'autodéfense, hein,
oui.
des sprays, des gaz lacrymo, tout ça.
Oui, exactement. C'est une évolution qui me rend pas particulièrement heureuse. Je ne sais pas à quel point ça augmente vraiment la sécurité. Et de l'autre part, je crois que ça met les gens dans la peur. Parce que quand on se réveille le matin, on sort de chez soi et on prend du gaz à lacrymogène avec soi, ça veut dire qu'on a une conscience permanente de danger. Et je ne sais pas si c'est quelque chose de nécessaire ou voulu. Surtout pas encore en ce moment.
Et ça risque d'entraîner des dérives aussi, comme on l'a vu
Oui.
récemment, malheureusement. Ça, c'était un petit peu pour le micro. Et au niveau du macro, comment est-ce que tu penses que ça va évoluer tout ça?
Ça, donc, comme j'ai dit au début, le micro ne me préoccupe pas trop. Le macro, par contre, je crois qu'il est très, très, très préoccupant. Donc, au moyen et long terme, si on voit les évolutions dans le quartier, mais dans la région, je veux dire, je crois que le futur d'Israël et des Juifs en Israël est incertain. Ça me peine beaucoup de le dire parce que c'est pour moi, vivre ici est partiellement un miracle du peuple juif qui a pu venir de partout dans le monde ensemble. Et aussi, pour moi-même et pour beaucoup de gens, ça permet vraiment de vivre sa vie en tant que juif plus pleinement ici. Donc ça me peine vraiment de ce que je dis, que le futur ici est incertain, mais même pas à long terme, même à moyen terme. On sait par exemple qu'au nord, au Liban, le Hezbollah, il a des milliers et des milliers, si pas des dizaines de milliers de missiles sophistiqués qui aujourd'hui sont déjà pointus vers nous. Donc ce qui se passe maintenant, c'est évidemment tragique. Chaque personne qui meurt ou qui est blessée, mais ça reste encore dans la grande. Quand on voit. En macro, c'est encore limité, mais ce qui pourrait se passer, par exemple, avec le Hezbollah, ou avec des autres pays aux alentours, on voit Daesh, l'État islamique, ou l'Iran, qui probablement veut développer une bombe atomique, ça, c'est très très préoccupant à moyen et long terme.
Est-ce que tu penses, ou est-ce que tu as pensé parfois eh bien, à retourner du pays où tu es né, par la
Non,
Belgique?
je dirais plutôt l'inverse. Donc la notion que le futur est incertain me donne la conscience qu'il faut profiter de chaque instant, qu'on peut encore profiter ici. Donc c'est plutôt l'inverse, il faut surtout rester encore ici tant que c'est possible, et j'espère que ce sera possible tout au long de ma vie et la vie de mes enfants et de mes petits-enfants et de leurs petits-enfants. Mais comme j'ai dit, c'est
Mais je reste quand même sur ces mots d'espoir
incertain.
pour les générations futures. Merci beaucoup, Lior.
Merci à toi.